Vous avez entendu l'histoire de...
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts?
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et...
On vous en racontera bien plus!
Eh bien, nous voilà dans une nouvelle émission de Stop Chorus. Et aujourd'hui, on va vous parler des contrebassistes. Et on va même vous faire deux émissions sur les contrebassistes. Hein. Tant qu'à faire.
Bande de vénards.
Alors, mais avant de parler des contrebassistes, on va vous donner une petite leçon de musique sur la contrebasse. Alors, la contrebasse, c'est un instrument grave de la famille des instruments à cordes. Donc, avant l'octobasse, la contrebasse est le plus grand, entre 1m60 et 2m05, et l'un des plus graves instruments de cette famille. Et donc, à la différence des autres instruments de la famille, comme le violon, l'alto, le violoncelle, qui s'accordent en quinte, la contrebasse s'accorde aujourd'hui en quarte, du grave vers l'aigu, c'est-à-dire mi, la, ré et sol.
Comme les quatre, comme les quatre cordes graves de la guitare.
Voilà. Alors ça, c'est essentiellement hein, pour des raisons de facilité de doigté.
Donc oui, la contrebasse, donc, ce sont des notes graves. Donc ce sont des notes qui ne sont pas tellement sonores. Et l'origine des notes graves, bah, moi je pense que c'est les orgues. Hein, c'est avec la musique de Jean-Sébastien Bach. On appelait ça les notes pédales. Hein, parce qu'elles étaient jouées... avec le pédalier d'orgue, hein. Il n'y avait pas des pédales comme sur le vélo, non, non, non. C'était un pédalier d'orgue, et après, sur les orgues, comme il y avait énormément de puissance pour envoyer l'air, quoi, ça avait du son. Mais après, ça a été un vrai problème de faire entrer ces notes graves dans l'orchestre, qui en avait énormément besoin, parce que tout l'orchestre, si le bassiste joue faux, tout l'orchestre joue faux. L'orchestre, comme c'est la note de basse de l'accord, l'orchestre s'accorde sur la tonale, sur la contrebasse joue la note tonale. Donc, tout l'orchestre s'accorde sur la note grave de la contrebasse. Mais il faut qu'il l'entende, et c'est pas facile. Au début, les contrebassistes jouaient à l'archer. Hein. Puis avec... justement, avec le jazz, ils ont arrêté l'archer, puis ils ont commencé à jouer en pizz.
Voilà, donc là, qu'on appelle le pizzicato.
Voilà, en tirant avec les doigts. Hein. Donc, continue, hein, Mireille.
Donc, belle histoire. Contrebasse est donc très utilisée en musique classique, au sein des orchestres symphoniques, et aussi en musique contemporaine, bien sûr. Mais en jazz, elle fait partie de la section rythmique. La contrebasse est également utilisée dans d'autres styles comme le blues, le bluegrass, le rock'n'roll, le rockabilly, le jazz rap, le tango et depuis peu même dans le hard rock ou encore le heavy metal. Bon, alors nous on va s'intéresser plutôt évidemment...
Dans les musiques de l'Est, hein, la musique russe
oui,
justement,
enfin, de...
où c'est l'origine de ce qu'on appelle le slap, hein, ça slap hein, dans la musique de l'Est, hein, quand on écoute c'est... ces rythmes russes là qui accélèrent là.
Donc pour commencer, on va vous proposer d'écouter Pierre Boussaguet et Éric Le Cordier qui lui est à la guitare dans un morceau intitulé Stella by Starlight.
Eh bien, c'est quand même du très très beau, hein. Belle dentelle. Hein. Pierre Boussaguet, c'est. Enfin, Éric Lecordier, je connais pratiquement pas. Hein. Mais Pierre Boussaguet, c'est certainement actuellement en France un de nos meilleurs contrebassistes. Quoi. Mireille va vous raconter un petit peu sa petite histoire. Petit détail, l'émission, là, il va y en avoir deux émissions. Celle-ci est consacrée aux. Contrebassiste français ou ayant exercé en France. On voit qu'il y a très bons musiciens. Dont Pierre Boussaguet, qui a très beau son de basse et tout. Voilà.
Donc, contrebassiste et compositeur français, il est né en 1962 à Albi. Il a joué de très nombreuses fois au festival Jazz in Marciac avec les plus grands, notamment dans le quartet de Guy Lafitte, mais aussi avec Ray Brown. Il accompagne la chanteuse et pianiste Sarah McKenzie depuis 2015. Sa vocation pour la contrebasse est née lors d'un concert au théâtre municipal d'Albi, où, il l'avoue lui-même, il s'était rendu à contre-cœur. Il devait être en quatrième ou troisième, il dit « Je n'en avais jamais écouté, mais j'avais décidé d'emblée que le jazz ne m'intéressait pas. J'ai découvert ce soir-là le trio du pianiste Ray Bryant, et ce fut le choc. C'est ainsi qu'au lieu de rester musicien de bal et de faire carrière comme employé de banque, je suis devenu bassiste de jazz. Bien lui en a pris, hein, d'ailleurs. Donc, il est monté à Paris en 1985 et il va intégrer le quartet et le big band de Gérard Badini. Et donc, l'année d'après, il va rencontrer Guy Lafitte, puis le légendaire Ray Brown, son idole, avec qui il crée Two Bass Hits. Les deux musiciens ont enregistré ensemble deux albums. Alors, le 23 avril 2007 à Paris, au Grand Rex, il va jouer aux côtés du compositeur de musique de film Lalo Schifrin, avec André Ceccarelli à la batterie et plus de 80 musiciens. Ils forment une rythmique très proche des enregistrements originaux. Avec toujours à cœur de réhabiliter cette grande dame, la contrebasse, instrument perçu mais pas écouté, Pierre Boussaguet lui consacre en 2010 un album solo qui s'appelle « Pour ou contrebasse ». Voilà. Donc c'est vrai que la contrebasse, il faut quand même écouter des morceaux pour les gens qui connaissent pas bien la musique, parce que souvent on entend, on va entendre la trompette, on va entendre le piano, tout ça, mais on fait pas forcément très souvent attention à la contrebasse.
Ah bah oui, elle a un rôle d'accompagnement, mais qui est indispensable pour la pulsation et comme je disais au départ, l'harmonie, parce que le contrebassiste est obligé de jouer les harmonies de base du morceau. Sans ça, bon, bah, ils le font puter pas systématiquement aujourd'hui, mais c'est un peu dommage.
Alors maintenant, je vous propose d'écouter un morceau qui a connu, qui est très connu quand même.
Bah oui, oui, un de nos grands succès du jazz français.
Voilà, quoi. Donc on ne vous dit pas qui c'est, mais vous allez trouver, je pense. Hein, voilà. Allez, Minor Swing de 1950.
Enregistrement de Django, années 50, où il joue de la guitare électrique, c'est bien, et avec, bon, bah, André Guillain à la clarinette, et Totol, Alphonse Masselier à la contrebasse, et Totol, c'est un des contrebassistes parisiens, français, qui a fait une des plus belles carrières, parce qu'il est arrivé vraiment au bon moment, puis c'était un type très, très, très gentil, hein, j'ai eu l'occasion de le croiser. Et pas du tout bêcheur et tout, et qui a joué quand même. Moi, à la fin de sa vie, il a accompagné. Je me souviens, il a accompagné Charles Trenet, Yves Montand et Charles Aznavour. Ce qui n'était pas rien, ce qu'il faisait. Il nous disait le prix des cachets, c'était. On était sur le cul à chaque fois. C'était du genre. Ah oui, c'était à 750 euros le gala, quoi. Comme accompagnateur, c'est pas mal, hein.
Je vois que ça fait des jaloux. Alors, Alphonse Masselier, donc lui, il est né en 1925, hein, dans le 20e arrondissement de Paris, et il est décédé en 2013. Il va d'abord suivre des cours de violon, mais c'est à l'harmonica qu'il débute en duo. Mais il va opter rapidement pour la contrebasse. Et en tant que musicien, son premier engagement payé remonte à 1946, lorsqu'il joue avec Boris Vian, Claude Luther et Jean-Claude Forenbach au Châtelet du Lac. Alors en 1948, il devient professionnel, il joue dans le trio de Jacques Dangean, notamment en première partie du concert à Pleyel du Big Band de Dizzy Gillespie. Bon, pas mal. Il part ensuite en tournée avec Kenny Clarke, on l'entend aussi au Club Saint-Germain, avec les frères Foll, Raymond et Hubert. Totol joue pour Noël Gibouste à Cannes en 49, à Evian en 50, avec Sidney Bechet. Pierre Bralavski au Club Saint-Germain. Il joue aussi avec Charlie Parker.
Et oui, oui, je me souviens, ça, il m'en parlait.
Coleman Hawkins, Roy Eldridge ou Zoot Sim, Roger Guérin, donc le voilà. Copain de Jean, Bernard Hulin, Don Byas. Alors, Total entre dans le quintet de Django Reinhardt avant d'être engagé par Bernard Hilda. Excellent lecteur, il est très sollicité, il devient un vrai requin des studios. Alors, il enregistre plein de disques, des films, des musiques de films, des musiques de génériques d'émissions, etc. Et donc, il est sur tous les fronts. Hein. Donc, il y a donc plein de gens qui vont lui demander de jouer. Donc, notamment, par exemple, Jacques Brel, Petula Clark, Jerry Lewis, Charles Trenet. Alors, il va enregistrer avec Claude Bolling, avec Hubert Rostin, avec Jacques Dangean, et avec tout un tas de chanteurs aussi, qui va accompagner, comme Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Dick Rivers, Guy Béard.
Ah, c'était un vrai requin, total.
Et
un vrai
Michel, voilà. Ouais. Donc, et donc, il dit que sa séance d'enregistrement préférée fut pour le film Mon oncle de Jacques Tati avec Alain Romance. Il termine sa carrière en enseignant au conservatoire de Marly-le-Roi à la tête du Big Band Marly Swing College et au sein du Sidney Bechet Memory de Christian Azzi et de Pumi Arnaud. Alors, voilà, donc on dit hein, qu'il dispensait de remarquables lignes de basse claires et rondes.
Oui, jouait de la basse à cinq cordes. Hein. Il avait une corde aiguë, ce qui lui permettait de jouer plus facilement dans l'aiguë. Quoi. C'était un rusé, Alphonse. Total.
Et donc, en soliste, c'était l'un des rares spécialistes du chorus à l'archer en chantant à l'octave.
Ouais.
Donc, un exercice pas forcément facile. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, je vous propose d'écouter un autre grand contrebassiste français, donc Pierre Michelot, dans No Problems, enregistrement de 1959.
C'est un excellent thème, très prenant, intitulé No Problem. Thank you.
Bah, ce merveilleux morceau, hein, Nos problèmes, du fameux film, là. C'est dommage, là, l'enregistrement est 159 et on ne l'entend pas très bien, Pierre Michelot. Bon, bah, mais il est là, quoi. Et c'est un peu ce dont ont souffert beaucoup les contrebassistes dans les premiers enregistrements, même avant, on ne sonorisait pas trop, hein, la contrebasse, et on ne les entendait pas trop, quoi, alors qu'il fait un boulot formidable derrière. Hein, et si les gars jouent si bien devant, évidemment, alors devant, il y a du beau monde. Hein,
oui, il y avait Clark Terry, Barney Willem, voilà, Bud Powell, quand même.
Powell, voilà. Donc, c'est que derrière, ça assure et ça pousse bien, quoi. Raconte-nous, Pierre Michelot, qui est considéré par les Américains comme les Américains qui font du jazz, hein, comme notre plus grand bassiste français. Bon, qui est décédé aujourd'hui, mais qui a pas encore été remplacé. Les Américains adorent Pierre Michelot.
Donc, bien sûr, vous aurez reconnu la musique du film Liaison dangereuse, hein, de Roger Vadim. Alors, Pierre Michelot est contrebassiste, compositeur aussi. Donc, il est né en 1928, décédé en 2005. Il va commencer par étudier le piano pour ensuite se consacrer à la contrebasse. Alors, plusieurs formations marquent sa carrière. Commencé dans la seconde moitié des années 40 avec H-U-M, avec Daniel Humer et René Utréger, je ne sais pas comment on dit, le trio The Three Boss, composé par Bud Powell, épaulé par Kenny Clarke, ou en accompagnement de Claude Nougaro, avec Maurice Vander, mais aussi le quintet européen de Miles Davis. À ces formations, on pourrait ajouter donc un grand nombre de jazzmen, comme Django Reinhardt, Sidney Bechet, Chet Baker, Miles Davis, avec qui il crée la bande originale du film de Louis Malle.
Ah oui, là, il fait un boulot formidable.
Ascenseur pour l'échafaud. Ou alors, il va jouer aussi avec les bebopers, hein, Dizzy Gillespie ou Thelonious Monk. En 1959, sous l'impulsion de Jacques Loussier, il va intégrer le trio Playback de Christian Garros.
Oui, Christian Garros qui était à Rouen, hein, qui vivait à Rouen, qui dirigeait le Big Band de Rouen.
Voilà, qui porte toujours son nom d'ailleurs, le Big Band de Christian
Garros. Bah oui.
Donc,
moindre des choses.
Cette formation qui fait swinguer Jean-Sébastien Bach va connaître un succès retentissant. Et pendant plusieurs années, il est un des musiciens accompagnant Claude Nougaro. Il fait une brève apparition au cinéma dans le film Autour de minuit, où il interprète d'ailleurs son propre rôle. En 2000, au cours de la cérémonie des victoires du jazz et de la musique classique, il reçoit une victoire de la musique collégiale pour hommes. Claude Nougaro lui rend alors un vibrant hommage. Les premiers signes de la maladie d'Alzheimer le contraignent à quitter la scène et il va lâcher sa basse le 3 juillet 2005. Et bien maintenant, on vous propose un autre morceau de Jenny Clarke, dont on va parler tout à l'heure, et le morceau s'appelle Scott. Thank you.
bien là, on l'entend bien, la contrebasse. Nous sommes en 87, on l'entend d'autant mieux qu'il est tout seul. Il n'y a pas d'autres instruments parasites. Donc, là, c'est Jenny Clark. Il était connu, mais il n'a pas fait une très grande carrière, alors qu'il joue, vous avez entendu, il n'y a pas photo. C'est un très, très, très grand musicien, très beau son, énorme virtuosité, sans problème. Et là, il se fait un petit peu de heureux, comme on dit, quoi. Il rejoue sur sa partie, il rajoute quelques petites notes dans l'aigu, tout ça. C'est du très, très beau boulot. Et on ne peut être qu'admiratif devant Jean-François Jenny Clark.
Donc, il est né en 1944 à Toulouse et décédé à Paris en 1998. Alors, il est quand même très présent sur la scène du jazz européen. Il joue avec le batteur Aldo Romano, le quintet de Don Cherry.
Plus les modernes. Il fréquentait les modernes.
Avec Keith Jarrett aussi, et dans le groupe de Jasper Wants Oof, Pork Pie, avec Charlie Mariano. Il est également membre de l'ensemble de musique vivante de Diego Masson, qui a interprété des compositions contemporaines de John Cage, Luciano Berio, Maurizio Cagel, Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Boulez ou encore Vinko Globokar. Voilà. De 1984 à 1987. Et Jenny Clark a dirigé l'ensemble de jazz franco-allemand avec Albert Mangelsdorf.
Magnifique tromboniste allemand qui jouait très bien aussi.
Ouais. On avait parlé dans une émission sur les trombones.
Qui avait fait un fameux bœuf avec Jaco Pastorius, où ça faisait le boulot.
Voilà, et donc après, à partir de 85, il va jouer principalement en trio avec le pianiste allemand Joachim Kuhn et le batteur suisse Daniel Humer. Il a également joué...
Qu'on jouait à Évreux, hein. Moi je les ai vus à Évreux, Joachim Kuhn et Daniel Humer.
A également joué avec Karl Berger, Joe Anderson, Gato Barbieri, Chet Baker, Michel Portal, Stan Getz, Hélène Merrill, Michel Petrucciani ou encore Martial Solal, quoi. Pas mal quand même.
Oui. Il était connu dans le métier, pas tellement des auditeurs, quoi, mais les musiciens le connaissaient.
Alors malheureusement, il est décédé d'un cancer de la lymphe à 54 ans et il n'a enregistré qu'un seul album sous son nom, donc Unisson, en 1987, dont le morceau Scott est un extrait.
C'est Scott, je pense que c'est Scott Lafaro, hein, son maître de la contrebasse, dont on va parler dans la prochaine émission. Là, ce sera les Américains.
Un hommage. Alors maintenant, je vous passe un petit, c'est une petite séance musicale improvisée et je vous donne le titre et vous allez essayer de découvrir qui sont les musiciens. Alors le morceau s'appelle All the Things You Are. Alors, est-ce que vous avez trouvé le nom des musiciens? Alors, c'est le pianiste surtout qui est intéressant à trouver. Et donc, alors, c'est une séance musicale improvisée qui tient son nom. Alors, on appelle ça un bœuf. Et alors, je ne sais pas si vous savez, mais un bœuf, le nom vient du nom d'un cabaret parisien qui s'appelle le Bœuf sur le Toit. Où en fait les musiciens de jazz après leurs différents concerts ou tout ça se retrouvaient là et puis jouaient ensemble de façon spontanée, voilà tout à fait improvisé, voilà. Alors je vous donne un indice. Donc à la contrebasse c'était Michel Gaudry.
Un garçon de Dieppe, hein. Coucou la Normandie.
Donc on a Elek Baksik à la guitare électrique. Et alors au piano.
Alors donc, au piano,
il est surtout connu pour ses chansons.
Il a écrit, il a fait des tubes merveilleux. Da 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 da.
Alors on a Serge Gainsbourg au piano. Donc là, on va vous parler un petit peu de Michel Gaudry, donc contrebassiste, donc qui est né à Eux, en Seine-Maritime, pour Dieppe.
Mais non, il vivait à Dieppe.
Ah, il vivait à Dieppe, bon. Et il est mort à Saint-Lô, bon, dans la Manche. Il est resté normand jusqu'au bout, alors. Alors, de formation, il est dessinateur technique, mais il va apprendre le piano et la clarinette. Et c'est sur ce deuxième instrument qu'il fait ses débuts comme jazzman amateur. Il va se produire dans les clubs parisiens, comme le Lorientais, par exemple, où il a l'occasion de jouer avec Claude Luther. Et puis, en 1955, il fait ses débuts professionnels à Lausanne, aux côtés de Michel Hausser et de Gérard Le Coët. C'est là qu'il commence à pratiquer sérieusement la contrebasse. Alors, de retour à Paris, il va devenir un contrebassiste très demandé. Et au cours d'une émission de radio, il rencontre le pianiste Art Simons et ce dernier lui demande de se joindre à son trio au Mars Club avec successivement Pierre Culas, Pierre Cavalli, puis Elek Baksik à la guitare électrique. Depuis, on a pu l'entendre aux côtés de jazzmen français comme Georges Arvanitas, Guy Lafitte, Henri Renaud, René Utrecht, Jacques Guéval, Stéphane Grappelli ou encore les Double Six. Il a accompagné aussi, en club ou pour des enregistrements, des musiciens américains de passage en France, comme Wes Montgomery, Dexter Gordon, Lee Morgan, Sonny Stitt, Billie Holiday, Duke Ellington, Bud Powell, Clark Terry, Barney Kessel, Lou Bennett, Kenny Clark. Quand même, une belle palette de musiciens.
C'est un très très bon contrebassiste, très beau son et tout. Ça ronronne bien là, avec Michel.
Et donc, dans les années 70, hein, il a participé à la première Swing Machine de Gérard Badini, aux côtés de Raymond Folle et de Sam Woodyard. Il a aussi été très actif comme musicien de studio. Il a par ailleurs accompagné de nombreuses vedettes de la variété en France et à l'étranger, comme Barbara, Serge Gainsbourg, Claude Nougaro, Serge Lama, Jeanne Moreau, Nancy Holloway, Josephine Baker aussi.
Hein, donc, quand même belle carrière aussi, voilà, hein. on vous gâte. On prend pas les bras cassés,
que hein. du beau monde. Voilà, il n'y a pas que les Américains qui sont bons. Donc maintenant je vous propose d'écouter un autre contrebassiste, donc Henri Texier, avec Aldo Romano et Louis Clavis, dans un morceau qui s'appelle Three Children. Thank you.
remercier. Bah, très, très, très beau boulot de contrebasse. Hein. C'est un type aussi super cool avec son petit chapeau, là, c'est ça
hein. Oui, c'est ça. Je me disais, c'est bien lui qui a son voilà. bonnet sur la tête.
Aldo Mano, qui fait un boulot aussi fantastique. Là, pour t'accompagner, là, il a bien de la chance, M. Louis Clavis, d'avoir Henri Texier et Aldo Mano pour lui faire le tapis.
Et donc là, c'était un extrait de l'album African Flashback. Et donc, en tout, ils ont enregistré trois albums, sur le thème de l'Afrique. Voilà. Et donc, alors, Henri Texier, il est né en 1945 à Paris, contrebassiste, multi-instrumentiste, chanteur aussi, chef d'orchestre et compositeur. Alors, il commence par étudier le piano, mais finalement, il va avoir un coup de cœur pour la contrebasse à l'adolescence. Et puis, il va citer volontiers Bilbo Ware comme son influence majeure. Moi, j'ai jamais entendu parler.
Non, moi non plus.
Bon, bah alors. Alors, il fonde sa première formation, composée de Georges Locatelli, Alain Tabarnouval, Jean-Max Albert et Klaus Hagel, inspiré par la musique de Don Cherry et Ornette Coleman.
Donc du jazz de bien moderne déjà. Hein. À la limite du free jazz.
Alors il va jouer brièvement dans le trio du saxophoniste Michel Rock. Et puis ensuite il va intégrer le groupe European Rhythm Machine de Phil Woods, qui est un saxophoniste américain, qui est installé à Paris. Où on retrouve là le batteur Daniel Humer et le pianiste Georges Kronz. En 70, il va fonder un groupe de rock psychédélique qui s'appelle Total Issue avec Aldo Romano. Et puis, il va intégrer par la suite une formation menée par Jeff Gilson dans laquelle s'y rencontrera Bernard Vité à la trompette et Jean-Louis Chautan, donc François Jeannot, saxophone, et Jean-Luc Ponty, etc. Au cours de cette même période, il introduit dans les clubs parisiens par Daniel Humer. Il a également travaillé avec divers musiciens américains dans des clubs parisiens, notamment avec Johnny Griffin, Bill Coleman, Chet Baker, Kenny Drew, Donald Byrd, Bud Powell, Kenny Clark, et puis Dexter Gordon aussi.
Tous les Américains qui font un petit tour à Paris. Hein. Bon, ben, on va jouer avec Henri Texier, après tout.
Alors, tout au long des années 70, il va rester très actif sur la scène jazz européenne, jouant entre autres avec des musiciens tels que Gordon Beck, John Abercrombie ou encore Didier Lockwood. En 2016, il va recevoir le prix In Honorem catégorie jazz décerné par l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de sa carrière, à l'occasion de la sortie de Sky Dancer. Là, je vous propose d'écouter une petite interview de Henri Texier qui date de 2008.
Une des grandes émotions, quand même, une des, hein, parce qu'il y en a mille et une. C'est lorsque Bertrand Tavernier est venu m'écouter dans un club à Paris et à l'entracte, il est venu me saluer et puis on s'était croisés déjà. Et il m'a proposé, il m'a dit comme ça, ah mais ce serait bien, parce qu'il parle, il peut parler très doucement comme ça avec une petite voix, ce serait bien si vous pouviez mettre quelques musiques sur les images de mon prochain film. Je veux dire que ça m'a, à ce moment-là, j'ai fait, ouais, c'était une... Et à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où le film est sorti sur les écrans, ça a été qu'une suite d'un travail absolument, une relation délicieuse, quoi. Enfin, c'était un monsieur formidable. Voilà, donc c'est pas une émotion, comme ça, j'en ai plein, mais celle-là, elle a duré... C'était assez beau comme histoire, quoi, comme aventure. Je compose pas comme ça dans le train, dans l'avion, n'importe où. Oui, évidemment, je peux avoir des petites idées, Mais non, je ne cherche pas forcément quelque chose en particulier, sauf si, justement, je suis en train de composer par rapport à des images ou par rapport à des textes. Ou, voilà. Alors là, je cherche une musique qui va correspondre et qui va exprimer ce que le texte ou les images n'exprimeront pas, quoi. Alors le mot jazz... Thank you.
Bon, voilà, j'ai un peu coupé la parole à Henri Texier tout à l'heure. Et ensuite, on a enchaîné avec un morceau qui s'appelle « J'ai Walking ». Et donc là, l'album porte le même nom. Et là, on retrouve Nils Henning Oster Pedersen, donc contrebassiste de jazz danois.
Oui, plus connu sous le nom des NHOP, parce qu'évidemment c'est imprononçable, mais oui, c'est un de nos premiers émigrés musicaux. Hein. Il est venu du Danemark et puis il a fait une carrière fantastique en France. Tout le monde l'adorait parce qu'il jouait d'abord très très, très bien et il a vraiment fait évoluer cet instrument. Hein. C'est un sacré monsieur, hein, NHOP.
Donc, ah oui. Il est né en 1946, donc au Danemark, et il est décédé en 2005 à Copenhague d'une crise cardiaque. Alors, il est réputé pour sa technique impressionnante, hein, son approche instrumentale peut être considérée comme une prolongation du travail innovateur de Scott Lafaro.
Exactement, oui. Moi, au début, quand je l'entendais, je croyais qu'il faisait un solo perpétuel. Au début, ça me gênait, hein. Mais en fait, on évolue et tout, et après, on se rend compte que c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Et toujours un tempo d'acier, quoi. Il soutient bien les gars. Non, moi, j'adore NHOP. Et puis, un beau son. C'est presque la basse électrique, des fois, son son. Mais on s'en fout. Il fait vraiment bien le boulot, hein, NHOP.
Et donc, dès l'âge de 14 ans, tout en poursuivant ses études, d'ailleurs, il va entamer une carrière professionnelle de musicien de jazz. Et va fonder son premier groupe, Jazz Quintet. À 17 ans, il se produit au sein de l'orchestre de Count Basie, quand même. Hein.
Oui.
Alors qu'il est encore adolescent, il est membre de la section rythmique au Club Montmartre de Copenhague, où il joue avec les plus grands musiciens américains de passage, Albert Heller, Chet Baker, Bill Evans, Bruce Moore, Bud Powell, Count Basie, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie, etc. Et puis, dans les années 70, il va jouer en duo avec le pianiste Kenny Drew, puis fait une tournée avec le trio d'Oscar Peterson.
C'est considéré, hein, comme un des plus grands pianistes, hein, Oscar. Hein,
voilà. Et donc avec Oscar Peterson, d'ailleurs, ils ont enregistré plus de 50 albums. Il a également travaillé avec le violoniste français Stéphane Grappelli et le pianiste espagnol Tété Montoulou.
Que vraiment là, du gratin, quoi.
Voilà. Donc, le morceau qu'on vous a passé, là, avec également My Little Anna et The Puzzle, figure parmi ses compositions les plus connues. Il est également interprète de poésie aussi et de chansons folkloriques danoises. Il va recevoir plusieurs récompenses, notamment le prix de musique du Conseil nordique en 1991. Et il est resté très actif, hein, jusqu'à sa mort soudaine à Copenhague, alors qu'il n'avait que 58 ans. Donc, voilà pour cette première émission sur le jazz, sur les contrebassistes. On vous propose bien de nous retrouver dans un mois pour continuer sur les contrebassistes américains.
Voilà, oui.
Voilà.
Et il y aura peut-être une petite entorse. Mais
oui, comme toujours, on fait toujours des entorses. Bien, j'espère que cette émission vous aura plu et qu'on se retrouvera dans un mois dans le prochain Stop Chorus.
Vous avez entendu l'histoire de
Miles Davis, John Coltrane, Stan Getz.
Comment ils vécurent, comment ils sont morts.
Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore?
Eh bien, écoutez Stop Chorus et
on vous en racontera bien plus.